Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin, spécialisées dans les problématiques liées à la solitude. Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode de cette rentrée 2024. On espère tout d'abord que vous avez passé un bel été avec vos poilus. Et pour commencer cette saison, on va commencer par un épisode qui porte sur l'hypersensibilité au bruit chez les chiens. C'est un sujet qu'on nous a pas mal demandé. Le voici enfin. C'est aussi le sujet sur lequel Julie a fait son mémoire récemment. Ouais. Pour la fin de l'une de ces formations. Et pourquoi c'est un sujet si intéressant en lien avec les problèmes liés à la solitude et à la séparation? Parce qu'en fait, il y a une forte corrélation entre les problèmes de comportement liés à la solitude et à la séparation et les soucis de sensibilité au bruit. Et plus largement, la sensibilité au bruit influe sur le bien-être du chien et mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu.
J'en profite aussi pour préciser que c'est un épisode qui a juste vocation à être introductif. Il ne sera pas exhaustif sur le sujet. Il existe beaucoup de problèmes différents liés au bruit et beaucoup de solutions qui vont énormément dépendre des cas.
Donc, on va commencer d'abord par un petit rappel sur l'ouïe du chien. Parce que c'est complètement différent. Alors, pas complètement différent, mais il y a des différences à prendre en compte. Entre nous, les humains, et les chiens. Qu'est-ce qu'ils entendent exactement? Il faut savoir que la capacité auditive des chiens est plus grande que celle des humains. C'est-à-dire qu'ils entendent, en gros, plus aigu que nous. Beaucoup plus, même. La sensibilité aux fréquences sonores des chiens est plus sensible aux hautes fréquences. Donc, elle va environ de 40 Hz jusqu'à 65 000 Hz. Contrairement aux humains, qui est de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc il y a quand même une sacrée différence. Il faut savoir aussi que les humains et les chiens ont des structures d'oreilles à peu près similaires. Cependant, il existe des différences anatomiques, notamment sur la mobilité des oreilles et donc la sensibilité, comme je l'ai dit, ce qui en fait leur permet de localiser plus précisément la source des sons. Ils peuvent bouger leurs oreilles pour détecter d'où vient le son. Contrairement à nous, qui avons des oreilles bien bien figées. Et chaque chien est différent. Il y a plein de races différentes, avec plein d'oreilles différentes. Des coupées, des tombantes, des droites. Il y en a vraiment de toutes sortes. Et donc, elle peut présenter une sensibilité auditive plus élevée que d'autres, en raison donc de leur race, de leur gène, de leur environnement et de leur expérience de vie.
Si on est face à un chien qui a une sensibilité au bruit, qu'est-ce qu'on va observer comme comportement? Alors, je vais donner une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais qui fait partie des éléments qu'on voit le plus. On va avoir par exemple un chien facilement excitable, qui a des difficultés à se relaxer, à se poser, voire carrément à dormir, et qui présente un déficit, qui ne dort pas assez, parce qu'il est toujours interrompu dans ces phases-là, soit de repos, soit d'endormissement. On peut avoir aussi des chiens qui ont du mal à gérer la frustration. On peut avoir des réactions de peur lorsque ces bruits se déclenchent, comme des aboiements, des tremblements, les signaux d'apaisement, mais avec des signaux qui sont déjà assez hauts dans l'échelle, comme l'allaitement, le fait de se gratter, avoir un léchage excessif. La posture des oreilles aussi est assez parlante dans ces cas-là. Ils les tournent dans tous les sens parce qu'ils sont en hypervigilance, un peu comme si c'était des véritables paraboles. En encore plus impressionnant, on peut aussi avoir parfois des réactions carrément agressives ou même des chiens qui se figent, qui semblent presque paralysés lorsqu'ils entendent ces bruits-là. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, comme Julie l'a dit juste avant, c'est que parfois ce qui les déclenche, ce sont des bruits que nous on n'entend pas. Et c'est ça qui est un petit peu également difficile, c'est qu'on ne perçoit pas forcément clairement les déclencheurs.
pense qu'il est important aussi de préciser qu'on distingue les chiens qui ont peur de bruits bien spécifiques dans des situations ponctuelles, comme des feux d'artifice ou des orages, par exemple. Des chiens qui ont peur de tous les bruits ou d'une longue liste de bruits, et notamment des bruits qu'ils rencontrent quotidiennement. C'est quand même pas du tout les mêmes cas de figure.
On peut avoir aussi des chiens qui tentent carrément de fuguer, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ces déclencheurs, ils peuvent être aussi assez subtils. Et l'idée, ça va être aussi de, quand on essaye d'étudier un peu ce qui se passe chez un individu en particulier, de remonter l'historique, car parfois, c'est un peu la manière dont ces comportements ont commencé qui nous donne un peu la puce à l'oreille sur la cause de ces comportements-là. Puisqu'un chien peut être sensible à un bruit dans un environnement dédié et se mettre ensuite à le généraliser à l'arrivée dans cet environnement, à l'anticiper. Et on a des déclencheurs qui deviennent environnementaux par association. Par exemple, on peut avoir une sensibilité à la pression atmosphérique pour des chiens qui sont sensibles aux orages. On peut avoir la même chose en lien avec le confinement, si c'est en lien par exemple avec des bruits de voiture dans le véhicule ou au sein de l'appartement. Et la difficulté de cette sensibilité au bruit, c'est que ça a vraiment des conséquences directes sur le bien-être de l'animal et que c'est on est quand même sur des déclencheurs qui sont souvent difficilement évitables. Donc on se retrouve parfois avec des chiens qui sont en véritable stress chronique, donc soit quotidiennement, soit toutes les semaines, qui va augmenter les sensations de peur et d'anxiété, et on va rentrer dans un cercle vraiment, vraiment vicieux et néfaste pour l'animal. Ça peut avoir également des répercussions directes sur la santé, avec le plus connu des troubles digestifs. On peut avoir aussi de la diminution de l'activité avec des chiens qui sont moins enclins à jouer, à explorer. Certains impacts au niveau physique et physiologique vont impacter l'espérance de vie. Par exemple, au niveau cardiaque, comme on est sur un chien qui panique souvent, le cœur est pas mal sollicité. On peut aussi avoir une pression artérielle qui augmente beaucoup trop fréquemment, avec du coup un risque à long terme sur la santé physique et également mentale, puisqu'il y en a qui deviennent, qui abandonnent au bout d'un moment et qui prennent plus trop de plaisir dans leur quotidien et qui deviennent presque léthargiques, quoi.
Il peut y avoir aussi des changements de comportement et des perturbations des interactions sociales. Donc, comme ils sont dans des situations inconfortables de façon régulière, ils peuvent devenir plus irritables, plus agités, ça on l'a dit aussi, agressifs et plus réactifs envers leurs congénères ou d'autres individus qui peuvent leur faire peur. Et parfois, en balade, on ne comprend pas pourquoi certains chiens, notre chien, peut réagir plus fort que d'habitude. Peut-être parce qu'il y a plus de vent, parce qu'il y a plus de bruit et qu'il est dans une situation très inconfortable. C'est possible. Il peut aussi chercher à éviter le contact physique ou au contraire à chercher du soutien émotionnel envers son humain d'attachement, ou même son copain chien avec qui il vit quotidiennement. Chaque chien est différent, donc ils réagissent tous d'une façon différente aussi. Il faut bien distinguer la sensibilité simple de l'hypersensibilité au bruit. La sensibilité, c'est quoi? D'après le dictionnaire Larousse, c'est la faculté de percevoir de façon fine, subtile ou intense certaines impressions sensorielles. Ici, le bruit. Donc, indépendamment du bon mot rattaché, arriver à voir vraiment quand est-ce que la sensibilité pose problème et à quel moment on doit agir pour essayer de rendre le quotidien de notre chien beaucoup plus apaisant et moins stressant. Comment on fait ça?
Eh bien, la réponse
Suspense.
va vraiment changer selon le chien. De toute façon, le premier réflexe quand on a une sensibilité au bruit, c'est d'abord d'essayer de comprendre ce qui se passe, de récolter des données pour arriver à identifier quand est-ce que le chien est OK, quand est-ce qu'il n'est pas OK, qu'est-ce qui est facteur de difficulté pour lui ou pas. Donc, on va se mettre à noter toutes les occurrences où il déclenche, également les occurrences dans lesquelles il ne déclenche pas pour un même bruit, par exemple. Pendant combien de temps il panique? Combien de temps il met à s'en remettre? Quel est le contexte? Avant, pendant ou après ces signes de stress, etc., etc. La liste des variables va changer selon le chien et selon ce que vous nous rapportez comme information au fil du bilan, en fait. Faut vraiment pas négliger le moindre détail, et c'est la grosse difficulté de façon générale avec tous les problèmes de comportement. Et on a parlé avec Julie juste avant d'enregistrer, mais souvent on émet beaucoup, beaucoup d'hypothèses et on se retrouve dans un flot d'informations qui n'est pas facile à traiter. Et c'est là où le travail vraiment quotidien avec le gardien est vraiment utile, puisque c'est vous qui avez le chien sous les yeux. Donc c'est vous qui allez observer ce qui revient pas. Alors, ceci étant dit, selon cette récolte de données, il y a quand même plusieurs catégories de sensibilité. Donc, on va faire ce qu'on appelle, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, j'essaie de faire une analyse différentielle, en fait, de tout ce à quoi je pense comme pouvant causer cette sensibilité au bruit ou la renforcer. Voilà. La première cause ou la première piste à étudier, je pense, c'est vraiment la piste douloureuse chez les chiens, en particulier les douleurs gastriques, les douleurs digestives, pardon. Les deux sont très souvent observés ensemble, et comme on le disait dans l'épisode avec Anaïs Allard sur la douleur, on ne sait jamais trop lequel est apparu en premier, lequel entraîne l'autre, puisque les deux sont extrêmement liés. Voilà. C'est ça qui n'est pas facile. Faut regarder aussi, est-ce qu'il y a d'autres accumulations avec d'autres facteurs de stress? Et bien identifier l'émotion. Est-ce qu'on est dans de la peur? Est-ce qu'on est dans de l'anxiété permanente? Est-ce qu'il y a de la frustration qui s'ajoute par-dessus ça? On étudie tout ça. Est-ce qu'il y a un problème neurologique? Est-ce qu'il y a des problèmes également au niveau de la sensibilité sensorielle de l'oreille? Est-ce que le chien a une sursensibilité et du coup, quand il entend des bruits, ça le fait mal? Ou est-ce qu'au contraire, il commence à devenir sourd? Ou aveugle? Parce que quand on se met à moins bien voir les choses et à moins prédire ce qui va se passer, on perd un peu pied et du coup le moindre élément peut annoncer quelque chose que l'on n'aime pas juste parce qu'on n'est pas habitué à ce monde sensoriel un petit peu différent. Voilà, je reviens juste sur la douleur. Faut garder en tête qu'elle peut être l'origine de la sensibilité au bruit, mais elle peut aussi la renforcer. Les deux sont liés, les deux s'entraînent.
Ouais, c'est vrai que c'est pas rare que des soucis de comportement soient amplifiés par des douleurs qui apparaissent de santé ou orthopédique ou des choses comme ça, parce que bah, le chien est plus sensible déjà, moins patient, plus irritable, plus fatigué, etc. Donc forcément, ça joue aussi sur sa résilience et le fait bah, d'accepter les choses stimulante et embêtante pour lui.
J'ai un exemple dans ma clientèle, par exemple. Il y avait un petit Spitz dont la gardienne m'a contacté il y a peu de temps, qui a présenté des problèmes à la solitude vraiment très très soudain, en même temps que des problèmes digestifs. On ne sait pas lequel a entraîné l'autre, on ne sait pas lequel est causé par quoi. Pour l'instant, je la laisse creuser la cause médicale avec son vétérinaire qui est tout à fait disposé à le faire. Mais ce qu'on observe quand même dans la prise de notes du quotidien, c'est que dès que ce chien a des reflux après avoir mangé, dans ces journées où il a ça, il ne supporte pas les bruits. Vraiment, même le lave-vaisselle qui auparavant était totalement neutre pour lui, et on reviendra sur un autre exemple contraire sur la lave-vaisselle tout à l'heure, c'était insupportable pour lui. Et dès que ça va mieux, et ben, bizarrement, les absences se passent un peu mieux, etc. Donc, tous les comportements sont liés entre eux. La difficulté, c'est de savoir où commencer. Pour
C'est
lui,
ça.
on commence par la partie purement médicale, puisque c'est en cours côté vétérinaire, mais il faut bien garder ça un peu.
Et du coup, comment on peut agir pour aider notre chien? Eh ben, c'est pas si simple. Déjà, la première chose à faire, c'est adapter l'environnement. Donc, on va essayer d'ajouter des choses qui peuvent absorber le bruit, notamment des matériaux comme le liège, le feutre, les mousses acoustiques qu'on peut mettre sur les portes, sur les fenêtres, sur les murs, tout simplement, des rideaux, des tapis épais. Tout ça, ça peut permettre de réduire le son et d'absorber les bruits dans une pièce. C'est un peu comme quand vous allez visiter un appartement qui est entièrement vide, bah, ça résonne beaucoup plus que quand il est meublé. C'est exactement pareil. Donc ça peut être aussi des boudins de porte pour camoufler les bruits. Souvent, quand on est en appartement, on peut avoir des portes plus ou moins bien isolées d'entrée.
Les matériaux qu'on va utiliser vont aussi dépendre du bruit spécifique qui pose problème, parce que pour certains bruits, on va pouvoir les absorber et pour d'autres, beaucoup moins.
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de proposer une zone de refuge à notre chien. Ça peut être un coin cosy, un coin où il va régulièrement, ou alors une pièce et dans laquelle il peut se réfugier quand il y a de l'orage, par exemple, ou des feux d'artifice, des choses comme ça. Le but, c'est de réduire au maximum l'accès à l'extérieur, donc de fermer les rideaux, les volets, d'ajouter un son qui peut l'apaiser et camoufler le bruit extérieur. Pourquoi pas ajouter des choses comme de la relaxation, des choses comme ça, et donc de lui apprendre à s'auto-apaiser dans cet environnement. Je prends l'exemple, par exemple, de Psycho, que j'ai en client depuis un certain temps maintenant, qui est très sensible au bruit, notamment quand il a des périodes de douleur. Donc c'est un chien qui a des soucis digestifs récurrent, donc chronique, et qui a aussi des soucis avec les absences. Quand on a fait la prise de données, on a remarqué qu'il y avait quand même une grosse, grosse corrélation entre ses douleurs, sa sensibilité aux absences et sa sensibilité au bruit. Donc, il supporte beaucoup moins les choses quand il est douloureux. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire avec Clarisse. Et donc, on a testé plein de choses avec son humaine, notamment les bruits blancs.
Les playlists, il y a des playlists aussi de bruit blanc sur Google,
Ouais.
enfin sur Google, sur YouTube, sur ce que vous pouvez trouver en libre accès, des trucs qui durent plusieurs heures. Et en fait, c'est un mélange de plein de fréquences, le bruit blanc. Et ça reste toujours effectivement sur cette tonalité, une sorte de bruit de fond qui fait.
Ouais, c'est ça. Alors, certes, c'est très individuel, encore une fois. C'est à tester. C'est comme les humains, il y a des humains qui supportent très bien les bruits blancs, d'autres chez qui ça va les énerver au plus haut point. Les chiens, c'est pareil. Pour le coup, Saiko, lui, c'était le bruit du lave-vaisselle. On s'est aperçu un soir où il y avait des feux d'artifice. Donc Saiko arrêtait pas d'aboyer, était assez apeuré, il montrait beaucoup de signes de stress. Et son humaine a lancé le lave-vaisselle pour faire sa vaisselle. Et Saiko a été de lui-même se coucher devant le lave-vaisselle. Et il n'a plus rien dit pendant tout le long où le lave-vaisselle a fonctionné. Pour
C'est
le
beau le
coup,
hasard, hein?
ouais, c'est bien. Hein. Donc j'ai cherché une vidéo YouTube pour travailler ce bruit blanc. Il s'avère que j'ai trouvé une vidéo qui dure 8 heures avec un bruit de lave-vaisselle. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne bien chez beaucoup de chiens. Et c'est intéressant d'avoir cet exemple-là parce que vraiment, c'était flagrant, quoi. Donc, à tester. Après, il y a plein de bruits blancs qui existent. À voir lequel convient aussi parce qu'il y a des bruits blancs qui peuvent convenir et d'autres pas. C'est assez diversifié, quoi.
Ouais, il y a aussi d'autres bruits qui existent sur d'autres fréquences. Les bruits roses, par exemple, ou les bruits bruns.
Ouais.
Et celui qu'on va choisir bah, va dépendre de ce qu'on cherche à couvrir déjà. Et puis de si l'individu les apprécie ou les apprécie pas, ou si ça change juste rien. L'avantage quand même de ce truc-là, c'est que c'est très facile à tester.
Ouais.
Vous avez des tonnes de playlists.
C'est
Et
gratuit.
puis, voilà.
Aussi préciser que tous les éléments qu'on va introduire pour aider nos chiens avec les bruits, que ce soit des bruits blancs ou divers éléments qu'on ajoute ou qu'on retire dans l'environnement, Il faut les introduire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut d'abord vérifier que le chien est OK avec ses artifices avant de les utiliser en situation plus problématique.
En termes de gestion, je ne crois pas qu'on en ait parlé jusqu'ici, mais il y a un élément important aussi, c'est un petit peu la planification de la journée et des activités du chien. En fonction de ce à quoi il est sensible, vous pouvez sortir à des heures plus judicieuses, en fonction de ce qui se passe soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Par exemple, quand il y a des travaux, on va chercher à les éviter, ou alors on va adapter certains lieux. Ce qui est assez typique, enfin, près de chez moi, là, je vis à Tours, et on a quand même beaucoup, beaucoup de champs autour de chez nous. Et il y a un problème phare au printemps, que les auditeurs doivent déjà être en train de se dire, punaise, je sais de quoi il va parler. Ce sont les effaroucheurs, donc les grosses détonations dans les champs pour faire peur aux oiseaux. L'objectif de base de ces bruits, c'est de faire peur aux animaux. Le problème, c'est que du coup, ça fait également peur au reste de la faune, dont
C'est
nos
ça.
chiens. Donc ça, c'est typiquement qu'on a une habitation qui est proche d'un champ ou pas très loin et le chien l'entend de super loin parce qu'il y a eu une ou deux balades où il y a eu ça et il a pris très peur. C'est quand même, c'est du coup clairement identifié et ça peut durer toute la saison. Et quand on est chez des gens qui habitent dans un environnement où le chien entend H24 ces détonations-là, peut-être la chasse aussi, hein. C'est quand même pas évident. Voilà. Mais dans certains cas, la replanification des activités peut aider. En termes de gestion, on entend aussi beaucoup parler de gilets compressifs. Il faut savoir que les revues scientifiques à propos des gilets compressifs ne concluent pas à une efficacité prouvée de ces éléments-là. Donc on est aussi sur des accessoires qui coûtent, alors selon la taille de votre chien, si je ne me trompe pas, autour de voilà, plusieurs dizaines d'euros. Gardez en tête que tous ces outils-là, du coup, vous risquez potentiellement de dépenser votre argent pour rien. Il y en a que ça soulage, il y en a que ça soulage pas. Et on a aussi des clients qui partent sur un test de compression, mais plutôt en mode câlin compressif pour éviter d'acheter cet outil et tester un peu ça. Encore une fois, les solutions sont individuelles. C'est pas parce que le câlin ne marche pas que la veste ne peut pas marcher. Faites juste attention au poste de dépense. Est-ce qu'il y a un poste de dépense qui, à mon sens, éprouvé et beaucoup plus utile, c'est la médication. Il faut vraiment pas hésiter chez des chiens qui sont tous les jours plongés face à ces bruits, qui sont en stress chronique, qui sont pas bien, pour lesquels il y a un enjeu de santé moyen long terme, à aller voir un vétérinaire et discuter de ça. Si votre vétérinaire généraliste n'est pas à l'aise avec ce sujet-là et c'est OK. Il peut aussi vous indiquer un vétérinaire spécialisé en comportement qui lui connaîtra très très bien ces problématiques-là puisque c'est vraiment des problématiques phares qui sont assez fréquentes. Il pourra vous conseiller vis-à-vis de ça, donc à la fois avec le volet thérapie comportementale et aussi médication. Et pour ça, on vous renvoie également à l'épisode qu'on avait fait avec le docteur Mathilde Guillon pour lever un peu le voile autour des mythes liés à la médication. Et c'est un incontournable, à mon sens, sur ces problématiques-là.
Ouais. Surtout quand c'est fort, quand c'est très intense et très chronique. Vaut mieux passer par là quand même. Ce qui peut être utile aussi, c'est d'ajouter de la prédictibilité dans le quotidien de votre chien et de la visibilité aussi. Donc ça peut être tout simplement montrer d'où vient le bruit. Par exemple, vous faites tomber un truc, il a eu peur, il n'a pas vu que vous avez fait tomber quelque chose. Bah, c'est lui montrer tout simplement d'où vient le bruit. Ça peut être pareil chez certains chiens qui ont des réactions vis-à-vis des voisins qui peuvent parler fort ou rigoler fort. Ça peut être leur montrer d'où vient le bruit. Alors, chez certains chiens, faut être vigilant parce qu'ils peuvent être sensibles aux humains, donc on va pas tenter le diable non plus. Mais chez les chiens qui sont plutôt OK avec les humains, ça peut être utile de leur montrer ça. Sur la prédictibilité, donc on avait déjà un peu parlé sur l'épisode où on a abordé la résilience, mais ça va être tout ce qui est annoncé au chien ce qui va se passer. Donc quand on sait qu'il va y avoir un feu d'artifice, par exemple, ça peut être créer une routine avant les feux d'artifice de relaxation, de je prépare la zone de refuge, je fais en sorte que il ait eu une balade super calme et zen avant, un tapis de léchage, des choses comme ça, pour qu'il soit le plus détendu possible et qu'il accepte le mieux cet événement qui va être stressant de toute façon.
Il y a des chiens aussi, alors ça va vraiment dépendre des cas, alors c'est compliqué de tout vous lister, on va falloir qu'on s'arrête au bout d'un moment, mais si c'est vraiment inévitable en extérieur, qu'on n'a pas encore de médication, qu'on ne sait pas encore comment gérer, etc., je pense que le premier réflexe, c'est une mise au vert pour le chien, s'il n'y a pas de bruit en intérieur. On ne force pas un chien qui a peur de l'extérieur tous les jours à sortir. Donc il y a certains cas où pendant un certain temps, le chien ne va juste plus sortir. Le temps que toutes ces hormones dans son corps, là, fou, tout descende. Et ce sera peut-être, pour certains, la première étape. Et c'est totalement OK, en fait. La priorité, c'est l'apaisement.
Ouais, et ça, c'est cette mise au vert, ça permet vraiment de casser le stress chronique et de pouvoir tout faire redescendre. Et souvent, alors moi, je sais que je le propose souvent à mes clients et je le fais moi-même avec Peter. Et ça a vraiment un impact très, très positif sur l'apaisement général, sur la résilience, sur la relaxation, etc. Vraiment, ça change tout, la plupart du temps.
Et ça peut être un test intéressant. C'est-à-dire que si on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe et tout, bah peut-être tester juste pendant une semaine, 10 jours, on ne sort plus.
Ouais.
Voilà. Voici s'il y a quelque chose qui change. Alors, et là, on commencera à se poser la question, est-ce que c'est le lieu de balade? Est-ce que c'est la durée? Est-ce qu'il a mal quand il fait certains mouvements qu'il fait en balade? Est-ce que la liste est souvent infinie? Mais
Faut
c'est un
décortiquer
indice
après.
important, ouais.
Ouais. Faut tirer le fil de la bobine.
Elle est très grosse, la bobine, souvent.
C'est clair.
Alors, pour arriver à la dernière partie de l'épisode, il y a quand même une bonne nouvelle dans ces problématiques-là. C'est qu'on peut en partie quand même agir en prévention. La prévention, ça, c'est pas magique, ça prévient pas tout. La vie est faite de plein de surprises, mais ça peut potentiellement aider.
Ça va passer surtout par la socialisation du chien quand il est chiot. Donc, alors ça va pas être l'exposer n'importe où, n'importe comment à beaucoup de bruit d'un coup, parce qu'on risque de lui faire peur et de le sensibiliser au bruit, chose qu'on ne souhaite pas. Ça va plutôt être le fait d'amener progressivement des sons par des vidéos, par des lieux, des environnements où on sait qu'il y a ce genre de bruit, mais de rester à distance pour que le son soit moindre et du coup moins impactant sur le chien. Et petit à petit, enfin, revenir du coup à tout ce qui va être visibilité, donc lui montrer d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, le laisser prendre les odeurs, le laisser observer, analyser l'environnement et de lui-même. S'il n'est pas sensible, il pourra s'adapter à différents environnements avec différents bruits. Sachant que, encore une fois, c'est très individuel, il faut rester nuancé. Il y a certains chiots qui peuvent être marqués d'un rien par un bruit qui leur fait peur d'un coup et qui peuvent devenir sensibles à ces bruits-là.
Après, on entend souvent parler de, alors que ce soit en prévention ou en solution, de contre-conditionnement, de désensibilisation, de choses comme ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut juste avoir bien investigué avant, et il y a quand même des bruits où c'est très compliqué de faire ça. La désensibilisation sur des bruits d'orage, par exemple, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres paramètres, il n'y a pas que le bruit en lui-même. Il y a l'humidité, il y a la pression, et tout ce qu'on a dit au début.
Ouais.
Et ça va être... Il y a aussi l'environnement lumineux avec les éclairs. Donc ça fait beaucoup de variables en même temps. Et ça, on ne va pas pouvoir le reproduire à moins d'avoir, je sais pas, une pièce dédiée. Je ne sais pas si ça
C'est
existe.
clair.
Qu'est-ce qui reproduit ces
Et puis
vibrages?
même quand on souhaite désensibiliser, on évite au maximum d'exposer l'individu sensible à ce qui lui fait peur, chose qu'on ne peut pas faire avec du bruit. Avec les orages, on ne va pas, on peut pas. On ne peut pas contrôler l'orage.
Ou déménager à
Pareil,
chaque fois qu'il
c'est ça. Tu appuies sur un bouton pour dire non, je ne veux pas l'orage. C'est pareil sur les feux d'artifice, on peut les éviter, mais ça reste quand même compliqué, surtout dans les périodes de juillet, tout ça. C'est pareil pour les effaroucheurs, c'est pareil pour les environnements du type voisinage, des choses comme ça. Donc, forcément, c'est très, très compliqué de désensibiliser du bruit. C'est pas impossible, mais c'est compliqué.
Pour le conditionnement et la désensibilisation, alors ça va dépendre des cas parce qu'il y a des cas où les chiens sont exposés sans cesse et d'autres où ils ne le sont pas. Quand on est sur des bruits qui sont avec une dynamique saisonnière, on peut pourquoi pas le tenter dans les périodes où il n'y a pas d'exposition. Par exemple à l'automne, par rapport à ce qu'on disait pour les effaroucheurs, par exemple. Mais il faut quand même avoir tout le plan d'action à côté pour tenter d'apaiser le chien au global. Et ce plan d'action-là va tellement dépendre des cas qu'on ne peut pas donner de réponse tranchée.
Donc c'est la fin de cet épisode qui était une petite introduction au vaste sujet de la sensibilité au bruit. C'est une problématique comme toutes les autres qui est à traiter vraiment de façon individuelle en fonction de chaque chien, avec beaucoup de récoltes de données, une analyse médicale et tester différentes choses de façon empirique pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Comme d'habitude, on manque cruellement de baguettes magiques.
C'est ça.
Et parfois, c'est quand même une problématique qui nécessite une approche interdisciplinaire, avec votre médecin, avec d'autres comportementalistes qui seraient éventuellement plus spécialisés soit dans les problèmes liés à la douleur, soit dans les problèmes liés au bruit. Et puis nous, pour la maille solitude. Voilà.
Exactement. Mais du coup, n'hésitez pas à vous renseigner et à contacter des professionnels pour vous aider. Parce que parfois c'est vraiment difficile, on ne sait pas collecter des données comme nous on l'a appris dans nos formations. Donc forcément, c'est peut-être pas assez précis, peut-être que vous passez à côté de certaines choses. Donc c'est important de pouvoir avoir un œil extérieur qui pourra mieux vous guider que d'être tout seul avec cette problématique-là qui est quand même assez compliquée à gérer au quotidien.
Compliqué à gérer, mais possible à améliorer. C'est ce qu'il faut retenir de cet épisode.
Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram. À bientôt!
Et caresse à vos affreux poilus.